Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Électez-vous pour Lévis-Centreville,
418-833-1111,
secteur Saint-Jean-Chrysostome,
le 834-3333.
Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
96.9 CJMD,
la seule station en direct de Lévis.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va top shape. Jeff, je te parlais qu'il faisait gris avant de rentrer en onde, mais écoute, j'ai un notaire aujourd'hui de prévu, donc ça met du soleil dans ma journée.
Pour une acquisition ou pour une vente?
Une acquisition.
Une acquisition?
Yes.
Des gens qui sont impliqués dans l'immobilier puis qui sont actifs dans l'immobilier arrivent à des résultats. C'est ça le secret, hein?
Exact. C'est comme ça qu'on remplit nos journées plus grises. Mais tu vois, l'automne, c'est quand même actif, là. J'ai quelques transactions à venir, puis j'imagine que toi aussi, ça tombe pas mort du tout, là.
Du tout. Écoute, le mois d'octobre, ça a été extraordinaire au niveau du mois, puis on pensait avoir du retard un peu dans le mois parce qu'on s'est habitué à être dans le jus pour toute l'automne. Puis tu vois, au mois de novembre, on a dépassé le nombre de transactions que de nombre de jours qu'il y a dans le mois de novembre. Là, fait que c'est quand même cool, là. Fait qu'on est vraiment content. La bulle immobilière se veut une émission de radio qui vient parler de différents sujets sur l'immobilier, qui vient entourer de différentes façons. Aujourd'hui, on a une spécialiste, une conseillère principale chez Mu Conseil. Bonjour Caroline Tanguay, ça va bien?
Bonjour, ben oui, ça va bien. Merci de l'invitation.
Ben, merci d'avoir accepté. Puis là, on a quelqu'un de la région. Fait que ça, c'est cool parce qu'on a plusieurs personnes à l'extérieur de Lévis qui viennent à notre émission. Puis, tu viens parler d'un sujet où ce que ça vient toucher les cordes sensibles, beaucoup pour les promoteurs, les entrepreneurs, beaucoup pour des courtiers immobiliers ou des gens impliqués dans le milieu immobilier, puis aussi pour des citoyens, parce qu'il y a une grande incompréhension de l'acceptabilité sociale de projet. Est-ce que je l'ai bien dit?
Yes.
Exactement. C'est bien parti.
Oui, c'était bien réchauffé.
Jeff. Fait que là, tu sais, je vais le garder là encerclé pour être sûr de le dire comme il faut pour les prochaines séquences. L'acceptabilité sociale, c'est un sujet chaud. Qu'est-ce qu'on vient dire par rapport à ça, juste pour mettre une vue d'ensemble? Est-ce que tu veux nous en faire un petit résumé?
Ben, en gros, l'acceptabilité sociale, puis oui, c'est un grand terme, là, peut-être compliqué à prononcer, mais c'est pas très compliqué de comprendre ce que c'est dans le fond d'être capable de mettre en place des conditions pour que les promoteurs qui développent un projet puis les citoyens qui vont vivre avec une fois qu'il va être fait puissent se parler au bon moment pour que le projet qui soit bâti soit un projet qui s'intègre bien dans son milieu, qui soit bien pensé, qui finalement répond aux besoins puis cause pas plus de tort finalement qu'on essaie d'en créer. En gros, là, si on résume simplement, ça ressemble à ça.
Fait que vous voyez comment c'est important d'être à l'écoute pour toute notre émission, pour mieux comprendre, mieux saisir les enjeux, puis de savoir comment travailler avec tout ça aussi, là, parce que il y a des façons de procéder, il y a des façons de faire qui va faciliter aussi l'intégration des projets, puis l'acceptabilité du projet aussi. Caroline, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, peut-être scolaire, tes expériences professionnelles, etc.
Ben en fait, j'ai le goût de commencer par vous parler de la boîte au sein de laquelle je travaille, pour la simple et bonne raison que le parcours que j'ai, ben il est logique dans un contexte qui est celui d'une boîte de services conseil. Puis bon, vous le devinez là, qui est spécialisée en acceptabilité sociale, mais on se positionne aussi pour accompagner des promoteurs puis toutes sortes d'autres organisations aussi dans la gestion de projets collectifs puis dans des démarches de participation citoyenne. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, mes conseils. Puis disons, la particularité de la boîte, c'est que bon, on fonctionne comme n'importe quelle autre boîte de services conseil. On fournit des services, on charge des honoraires et tout ça, mais ça s'inscrit dans un modèle d'entrepreneuriat collectif. Donc, MUConseil, dans le fond, c'est un OBNL qui génère des revenus, puis ces revenus-là sont réinvestis systématiquement dans des projets communautaires qui contribuent à notre mission. C'est quoi la mission qu'on se donne? Ben, c'est de faire en sorte de travailler avec des gens, avec des organisations qui sont audacieuses, qui ont le goût de faire les choses autrement, qui n'ont pas peur non plus de ça, puis finalement qui ont le goût d'amener des changements positifs dans la collectivité. Donc autant dans les mandats qu'on travaille, nous, quand on fournit nos conseils, que ce qu'on fait avec l'argent que ça génère, ça vise tout le temps ça, à renforcer la capacité de tout le monde à faire des choses qui font progresser notre société finalement.
Pour pouvoir redonner collectivement.
Ouais. Exactement.
Puis, est-ce que vous avez des organismes forts avec lesquels vous faites toujours affaire? Par exemple, Remax est avec Opération Enfant Soleil, etc. Est-ce que vous avez un organisme fort avec vous aussi ou vous changez souvent de partenaire par rapport à tout ça?
Ben, on a quelques partenaires plus récurrents, mais on aime, dans le fond, s'investir dans la structuration de différents projets. C'est que peut-être une chose que j'ai pas dite encore, le MUConseil a son siège social sur la Côte-Nord, à Baie-Comeau. Donc, c'est là que l'organisation est née. Depuis 2016, a une antenne à Québec, puis depuis quelques semaines à peine, un bureau à Montréal aussi. Donc, on est un peu partout, puis il n'y a pas comme une organisation avec laquelle on s'associe particulièrement. Cela dit, pour ce qui est de la Côte-Nord, c'est là qu'on a le plus grand nombre, je dirais, de partenariats actifs en ce qui a trait à redonner à la communauté. Entre autres, on a un projet depuis, quoi, 6 ou 7 ans avec Students on Ice. Puis là, je ne veux pas parler trop de ça parce que ça s'éloigne de notre sujet, mais dans le fond, on envoie des jeunes dans l'Arctique sur un bateau de recherche avec une centaine des plus éminents canadiens, là, que ce soit des politiciens, des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, puis ils vivent une expérience dans l'Arctique canadien pendant plusieurs jours. Ça fait des jeunes qui reviennent gonflés à bloc. Oui. Puis quand on parle d'implication citoyenne, là, qui ont une capacité à penser, à prendre du recul, à avoir un regard critique sur leur société, ça, c'est une des choses qu'on fait avec l'argent. Dans la région ici, de Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, ce qu'on développe en ce moment, c'est embryonnaire, c'est pas un projet qui est concret encore, mais ce qu'on développe avec un autre OBNL qui s'appelle Espace d'initiative, c'est une démarche qu'on appelle de lab urbain, où est-ce que là on est en train de structurer une démarche où est-ce qu'on veut que des professionnels municipaux, des chercheurs, puis des étudiants, puis des citoyens puissent se concerter pour trouver des solutions ensemble à des problèmes urbains, que ce soit la sécurité routière, que ce soit la façon de penser la densification de nos milieux de vie. On est en train d'essayer de mettre sur pied une initiative, finalement, qui permettrait de répondre à ça. Fait que, bref, c'est quelques illustrations des retombées. Mais ben, si vous voulez, on peut revenir aussi plus au concret de la chose. Donc, avant d'arriver à générer ces revenus-là, le travail qu'on fait auprès des promoteurs. Là.
Parce que est-ce que vous adressez principalement au niveau des promoteurs ou des fois, justement, vous avez comme, mettons, comme clientèle un comité citoyen? T'sais, est-ce que vous êtes des deux côtés un peu de part et d'autre ou c'est principalement?
Absolument, oui. On est des deux côtés. Puis c'est une grande fierté, finalement, de pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là. Parce que, dans le fond, notre travail, c'est d'être capable de se mettre dans les bottines d'un peu tout le monde, puis d'aider les gens à cheminer sur un terrain d'entente, finalement. Ça fait que oui, la plupart du temps, on se le cache pas, là, ceux qui ont l'intention, l'intérêt, puis les moyens de s'offrir une démarche d'acceptabilité sociale, c'est souvent les promoteurs. Ça fait que c'est souvent eux qui sont nos clients. Mais ça arrive aussi très fréquemment que ce soit des municipalités. Donc, qui voient qu'il y a une tension, là, qu'il y a un conflit potentiel ou qu'il y a un projet qui va être compliquées, puis qui font appel à nous pour qu'on aide les gens à se parler au bon moment. Puis oui, dans d'autres cas, c'est vraiment des organisations de la société civile, groupes citoyens, organismes communautaires qui sont nos clients.
Fait que ça vous place dans une certaine zone de neutralité aussi, puis
d'impartialité.
Ouais, c'est ça, pour partir tout de suite la discussion, pour pas que, mettons, un comité citoyen vous voit venir comme, OK, eux autres sont toujours engagés par les promoteurs, ils vont arriver avec le discours du promoteur, là.
Exact.
C'est intéressant dans ce sens-là.
Puis moi, je sais que j'ai bien fait mon travail quand le promoteur, il recule, là, puis qu'il dit, ben voyons, c'est pas fin ce que tu me dis. Ben, c'est pas que c'est pas fin, c'est parce que c'est ça qu'il faut que t'entendes à ce moment-ci,
ouais,
pour réaligner ton projet. Puis je suis pas là pour te dire que c'est le meilleur. Évidemment que c'est ça que tu pensais, t'as des bonnes intentions, puis je veux dire, c'est ton travail de le concevoir le mieux possible. Mais là, dans le milieu où tu veux l'implanter, ça a l'air que X, Y à faire, ça fonctionnera pas aussi bien que tu pensais.
Ouais.
Fait que il n'y a pas de complaisance là-dedans. Je te transmets le message. Après, tu prends ta décision, puis c'est toi qui décides, mais et qui décide. Mais, mais comme tel, il faut. Tu sais, moi, je le sais que j'ai bien travaillé quand, d'un côté puis de l'autre, les gens reconnaissent la qualité du conseil que je suis capable de donner parce qu'il est vrai.
Puis il faut savoir aussi que les intentions sont bonnes de part et d'autre aussi. Là.
Ah, ouais.
Tu sais, les citoyens ne doivent pas faire exprès non plus pour nuire à un promoteur en particulier. Au contraire, tu sais, c'est qu'ils se sentent, eux, non écoutés pour leurs besoins.
Ouais.
Puis le promoteur, ben, tu sais, lui, dans son développement de projet, ben, sûrement qu'en tête, c'est de l'intégrer dans le milieu puis de s'assurer que ça fonctionne bien. Puis c'est souvent une incompréhension, sûrement, des deux parties, là, qui fait en sorte que les besoins d'un pensaient combler les besoins de l'autre, puis les besoins de l'autre n'ont pas été comblés, puis demanderaient autre chose.
J'ai rien à ajouter à ça, c'est exactement ça.
Mais des fois, le choc est trop fort ou est trop direct. Ça fait que là, une tierce partie, comme vous aussi, ça, comme tu nous disais en pré-entrevue, ça vient un peu détendre l'atmosphère puis dénouer les nœuds plus facilement. Mais on s'entend que ça prend un doigté. On le voit déjà, ça prend un doigté assez aiguisé là, pour être capable de parler aux deux parties puis justement, des fois, les revirer un petit peu dans leur shot, si on peut dire ça comme ça. Là.
Oui, exactement. Puis dans le fond, effectivement, là, tu dis tout le monde est bien intentionné. À la base, oui. Puis, je veux dire, il y a des cas d'exception, puis des citoyens qui, pour X ou Y raison, vont toujours être réfractaires à un changement dans leur quartier. Ça existe. Là, on se compte pas de menterie. Ça existe. Tout comme il y a des promoteurs qui sont pas parlables, puis qui sont convaincus qu'ils ont raison, puis que...
Moi.
Bon, ça existe, tu sais, des deux bords. Mais c'est des exceptions. Dans tous les cas, c'est vraiment des exceptions. La majorité des gens s'avancent dans... T'es pour faire un projet, là. T'es bien intentionné. Tu veux répondre aux besoins d'un milieu. Si c'est pas ça ton intention, de toute façon, ça répond à rien, ça fonctionnera pas. Fait que les intentions sont tout le temps bonnes. Maintenant, oui, des fois, il y a un glissement, puis ça prend un doigté parce que il arrive souvent que les positions de départ peuvent être éloignées, t'sais, de ce qui apparaît comme une solution. Tu l'as dit, c'est rare qu'il n'y en a pas des façons de progresser vers un compromis. Là.
C'est quand même cool, hein, Kevin. C'est des choses qu'on fait juste effleurer comme sujet, puis que là, on a déjà beaucoup le goût là, d'en apprendre plus, puis de savoir comment ça fonctionne, etc.
Ça me rappelle que l'immobilier, c'est des humains, comme on le dit souvent. Là, je pense que le sujet d'aujourd'hui, on est
dans l'humain
là-dessus. Là.
Oui, directement. Puis écoute, on va avoir notre cours 101 de l'acceptabilité sociale des projets tout de suite après la pause.
L'Alternative Radio.
On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, toujours avec mon acolyte Kevin. Aujourd'hui, on parle de l'acceptabilité sociale des projets. Écoute, Kevin, j'ai toujours peur de le dire. Je veux être sûr que ça soit bien compris parce que pour moi, j'avais une grande incompréhension de tout ce qu'on parle aujourd'hui. On est avec une spécialiste, Caroline Tanguay, qui est conseillère principale chez MuConseil. J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer là, les fondements ou que tu nous donnes un petit cours 101 de c'est quoi l'acceptabilité sociale.
Bon, on a survolé un petit peu le sujet avant la pause, justement. Là, comme je le disais, dans le fond, c'est vraiment un processus. Okay? Le terme acceptabilité, faut pas le confondre avec acceptation.
Okay? Ouais, c'est pas oui ou non. C'est pas un crochet sur un papier.
Non, ben en tout cas, puis on pourra en reparler, je pense, un peu plus tard. Parfois oui, là, parce qu'il y a certains, par exemple, certains projets qui dépendent d'un changement réglementaire où est-ce que là, la conclusion, ça va être l'approbation par voie de référendum. Alors oui, parfois, il y a une notion d'acceptation qui est aussi bête que noir ou blanc, oui ou non. Par contre, l'acceptabilité comme telle, c'est vraiment un processus où est-ce que toutes les personnes qui sont concernées par le développement d'un projet vont chercher à se parler et à se comprendre pour que ce projet-là, comme je l'ai dit un peu avant la pause, soit le meilleur qui puisse s'implanter à un lieu donné en fonction de qui y vit puis de ce que le promoteur aussi a comme intention, contrainte et autres. Fait que c'est vraiment une façon de concilier tout ça dans un...
Pour réussir à amener un projet un peu plus fort ou un projet qui va avoir une retombée plus positive pour l'ensemble des parties, non pas juste pour une partie.
Absolument pas, c'est ça. Puis quand c'est fondamental d'insister là-dessus, à peu près tous les promoteurs avec qui on a travaillé ont tout le temps eu des gains directs. Là. T'sais, il a fallu qu'ils mettent du temps, il a fallu qu'ils mettent de l'énergie, il a fallu qu'ils pensent leurs affaires autrement, mais ils ont toujours un gain qui est, par exemple, que ça va se vendre bien mieux, leur projet, parce qu'il est en phase avec son quartier. Oui. Ou bien qu'ils vont avoir eu des nouveaux partenaires qui vont avoir été intéressés à leur façon de faire. Ou carrément qu'ils vont avoir trouvé des clients à même le quartier parce qu'il a parlé au monde et qu'il s'est aperçu qu'il y avait bien des gens qui avaient un intérêt direct à ce que ça se passe, ce projet-là.
Puis, est-ce que ça se peut que les promoteurs puis tout ça puissent être gagnants aussi financièrement d'avoir un peu cette recherche-là ou cette démarche-là en amont du projet, au départ, avant que le projet soit sur les tables à dessin?
Ben totalement, pour deux raisons. La première, la plus évidente, le gain financier, il est dans le fait que tu ne perdras pas d'argent ou tu ne dépenseras pas 3 puis 4 fois à produire des révisions de plan. Fait qu'il y a vraiment un gain qui est lié à la prévention des dépenses inutiles puis au gaspillage de ressources que tu aurais si jamais il faut que tu affrontes une crise ou que finalement ton projet, tu dois le repenser 2 puis 3 puis 4 fois parce que tu n'avais pas les bons ingrédients de départ. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le gain potentiel, comme je le disais, parce que le projet étant plus connecté à son quartier, ben il y a une valeur plus grande en général aussi.
Puis est-ce que justement les promoteurs qui vont vous approcher vont quand même arriver avec une certaine esquisse, quelque chose, vont dire essaie de me présenter ça ou va vers ça ou vraiment tu sais promène-toi, prends de l'information puis reviens vers moi. Tu sais c'est quoi la démarche? Est-ce qu'on doit proposer un certain frame de base ou vous pouvez aller vraiment plus dans la collecte des idées, des informations, des tendances du secteur?
Ben les deux se peuvent. Dans les deux cas, je pense que c'est c'est une démarche où est-ce qu'on est quand même assez en amont, qu'il y a une esquisse de base, une intention. C'est ça qui arrive le plus souvent. T'sais, c'est rare qu'un promoteur a juste un terrain puis a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire là. T'sais, il va avoir un flair. C'est le travail d'un promoteur d'être un peu visionnaire puis d'avoir une idée de ce qu'il a l'intention de faire. Fait que c'est rare qu'on part carrément de la page blanche. Par contre, ce que les promoteurs viennent souvent chercher auprès de nous, c'est ce qu'on appelle une analyse de départ. C'est de comprendre avant même de commencer à décider, ça va-tu être juste du résidentiel, je vais-tu intégrer du commercial, ça va-tu être quelque chose de bien dense, de bien flyé, de bien classique. En général, ce qu'on peut faire avant que justement cette recherche-là ait trop loin, c'est de faire une analyse du quartier. Fait que oui, ça peut venir avec carrément l'effort de parler au monde, d'aller recueillir, OK, c'est quoi l'âme de la place, mais ça peut être aussi de documenter, y a-tu des conflits d'intégration sociale dans le passé, y a-tu un passif dans le quartier, y a-tu des projets qui ont mal passé puis qui ont amené des dynamiques de confrontation? Bien ça, faut en tenir compte. Y a-tu une problématique particulière dans le quartier, du trafic à pu finir, des cases de stationnement qui manquent tout le temps, les jeunes qui, je sais pas moi, traversent à telle heure puis qui sont tout le temps à crainte de se faire frapper? T'sais, y a-tu quelque chose dans le quartier dont il faut tenir compte avant de commencer à se pencher là, sur le dessin lui-même.
Donc, il y a du travail d'urbanisme un peu à faire de votre côté quasiment au travers, ou du moins, vous allez voir aussi la ville en parallèle, ou cette démarche-là appartient juste aux promoteurs, tu sais, dans le fond?
Notre expertise est purement sociale et humaine, je dirais. Okay. Puis la richesse de ça, c'est justement quand on est capable de le travailler en partenariat avec justement les urbanistes, avec les architectes. La plupart du temps aussi, la ville effectivement est dans le dossier assez tôt, plus tôt que tard en général, avec ses propres professionnels et tout. Fait que la richesse de notre travail, c'est quand on le fait en partenariat avec les autres intervenants qui vont aider le promoteur à faire cheminer son projet. Cela dit, tous les promoteurs n'ont pas des projets d'envergure avec de telles équipes. Là. Oui. Fait que ça peut se faire à plus petite échelle aussi, évidemment. Là.
Okay. Puis quand vous consultez justement les comités citoyens ou les gens, c'est-tu vraiment, vous allez cogner, vous faites du porte-à-porte, vous allez vous asseoir?
De quelle façon ça se fait, là?
Comment qu'on peut imaginer ça? C'est-tu toujours des gros comités très organisés ou des fois c'est un peu plus informel ou tu sais,
ben souvent comment? Ça commence par quelque chose de très informel comme un coup de téléphone ou ces temps-ci en fait c'est surtout des coups de téléphone parce qu'on fait pas exprès de se déplacer chez les gens puis de faire une tournée de quartier.
Je viens chez toi là.
Ça c'est circonstanciel mais sinon un coup de téléphone aux 10, 12, 15, 20 personnes qui vivent autour, ça, c'est déjà une entrée en matière qui est constructive, puis qui fait que le lien de confiance, il se bâtit vite. Et oui, ça se fait de commencer par une assemblée publique, mais des fois, ça peut être bon aussi de créer des contacts plus personnels avec les personnes qui vont être les plus touchées. Puis ça permet d'un peu de canaliser la discussion aussi, parce que il y en a, les citoyens, il y en a qui vont prendre position très, très facilement, puis il y en a qui, même s'ils sont très concernés, ils vont avoir de la misère à trouver leur place. Oui, ouais. Ils suivent ou parfois ils s'en désengagent alors qu'on veut l'entendre, leur point de vue. Ouais. Plus qu'il y a une diversité puis plus qu'il y a une richesse de point de vue qu'on est capable d'aller chercher, ben plus on vient équilibrer finalement ce que le promoteur va avoir comme terrain de jeu pour concevoir un bon projet. Si, c'est malheureusement ce qui arrive souvent, si on attend, par exemple, qu'une grogne s'élève, puis qu'on a affaire avec un groupe de citoyens qui est très, très, très préoccupé, ben on risque de perdre un peu le focus puis le sens de cette démarche-là qui est, oui, d'entendre les préoccupations, mais aussi de prendre en considération l'intérêt plus collectif.
Puis, tu sais, est-ce que ça se peut que dans l'approche provenant justement d'une conseillère comme toi, qui appelle au nom de Mu Conseil pour sonder le secteur, va avoir une meilleure ouverture que le promoteur qui dit, écoute, je suis entrepreneur XYZ, j'ai acheté ce terrain-là, j'aimerais ça construire 425 portes avec 20% commercial. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je m'en...
T'sais, souvent, l'approche va être différente, là.
Ben, totalement. T'sais, puis la première chose qui est différente, c'est que moi, je suis pas là pour convaincre personne. T'sais, le promoteur, il est passionné par ce qu'il fait, il aime son projet, ouais. Il a le goût de faire ça. Fait que ça va être un peu incontrôlable.
Il y a une pression,
pour lui.
Il y a une pression aussi,
il veut que ça marche, mais des fois, il va être tenté d'être là pour convaincre le monde ou, tu sais, d'entrée de jeu, il est pas nécessairement en posture.
De faire valoir sa position.
Puis c'est normal, tu sais, c'est son petit bébé, là, il travaille là-dessus, puis fait qu'il va avoir peut-être des fois tendance à vouloir convaincre, alors que la première étape, c'est pas d'essayer de convaincre, c'est de s'informer. Puis de part et d'autre. Fait que comme promoteur, tu t'informes de où est-ce que je m'installe, puis tu t'informes le monde de ce que tu veux, mais pas en leur poussant ce que tu as pensé, plus en leur partageant de façon générale pour commencer quand tu es capable, les intentions que tu as. Tu sais, commence pas à déplier tes plans tout de suite, là.
Ouais, non, c'est ça.
C'est juste de créer un contact sur les grands principes.
Moi, je suis curieux de savoir à quoi ça peut ressembler, justement, quand tu fais un appel ou quand tu approches quelqu'un. C'est-tu vraiment très large ou tu te présentes comme de la boîte Mu Conseil? Tu dis, bon, on a un mandat avec un promoteur. On regarde un petit peu les idées, puis là, tu laisses parler les gens ou
En général, tu sais, il y a un contexte où est-ce que justement, on sait que, bon, l'intention, c'est de je sais pas moi, d'aménager, on va dire, une résidence pour retraite. Tu sais, quand je dis, c'est rare qu'on parle de la page blanche, il y a tout le temps une sorte d'intention. Fait que là, puis en général, on le dit, le promoteur, le mandat qu'il nous a donné, c'est de se connecter avec les gens qui vont être touchés par le projet. Puis moi, le but de mon appel aujourd'hui, c'est simplement de comprendre dans quel environnement vous vivez, à quoi vous tenez, ça ressemble à quoi vos...
Mais t'as le temps de discuter, c'est pas un appel léger, là. Vous êtes favorable de 1 à 10,
ouais, j'ai
9, dit... vous aimez le secteur de 1 à 10, c'est, j'imagine c'est un peu plus humain, un peu plus...
Vous documentez aussi toutes les conversations, les discussions que vous avez, puis il doit y avoir aussi plusieurs points qui vont revenir... T'sais, dans des secteurs névralgiques, par exemple, avec vue ou des choses comme ça, il doit avoir plusieurs points qui reviennent à la base. Là, t'sais, ah ben moi, je veux pas perdre ma vue. Ah ben moi, t'sais, je veux pas avoir un gros building qui va faire en sorte que je vais ressembler à un petit champignon à côté du building, etc. T'sais, il doit y avoir des gens qui ont t'sais, sensiblement toujours les mêmes préoccupations. Puis vous devez, en amont, déjà savoir sur quel pied danser dès l'approche du projet.
Exact. Puis comme je le disais, des fois... Même avant de faire un premier appel ou d'organiser une première rencontre d'information et d'échange avec les citoyens, il y a des choses qu'on peut savoir. Fait que ça, on les documente, puis des fois, ça devient des points sur lesquels on est capable aussi de faire avancer la discussion avec les voisins. Et bon, ben, ce qu'on comprend, par exemple, on regarde la revue de presse. On comprend que, bon, il y en a eu plusieurs des projets dans le quartier qui ont changé pas mal le visage des lieux. Comment vivez-vous par rapport à ça? On est capable, des fois, d'aller au front là avec des éléments qu'on sait qui sont sensibles, puis entendre les gens là-dessus, c'est ça. Puis ça, c'est une approche très, très personnelle, mais il y a des approches aussi où ça vaut pas toujours la peine d'y aller cas par cas, ou est-ce qu'on peut juste ouvrir une salle, à un moment donné, un espace de discussion, puis bon, tous ceux qui s'intéressent, on distribue un feuillet par les portes, venez jaser.
Ouais, je trouve ça le fun que vous preniez le temps de faire ça, t'sais, dans la mesure où vous avez les ressources pour le faire, parce que c'est vrai qu'un groupe de 20, 30 ou 100, il y a souvent une voix qui s'élève ou une direction ou une tendance, c'est celle-là qu'on entend. Mais tu sais, s'il y a 100 personnes, il y a peut-être 100 avis ou peut-être pas autant, là. Mais je veux dire, le fait que vous le fassiez individuellement, ça va vous donner le pouls vraiment plus large sur la réponse au projet, là.
Puis de déjà préparer aussi le projet à ces pas ces confrontations-là, mais ces enjeux-là qui va faire en sorte que les gens, pour eux, c'est important. Fait que quand on va faire la présentation du projet, ben, on va être déjà dans la résolution du problème pour dire, écoutez, on a compris que vous avez ces éléments-là, puis on va les mettre.
On a pensé le projet en conséquence.
Exact. Puis tu sais, au-delà d'arriver avec un fait accompli, vous êtes, demandé au conseil de ville pour donner votre opinion versus que de l'avoir travaillé en amont. La réception doit être complètement différente aussi, mais il y a toujours aussi le point, puis là, c'est le point où ce que moi, je m'emballe, tu sais, que pas dans ma cour, je veux pas que ça soit là, puis tu sais, ton projet va nuire à mes projets à moi, puis tu sais, toute cette partie-là, puis moi, j'ai toujours l'impression qu'on va donner toujours plus de poids aux citoyens versus les 300 000 autres qui s'en sacrent, puis qui sont d'accord qu'un projet lève. Mais les 3-4 qui ont levé la main, puis qui ont levé un petit comité, puis qui ont fait une petite organisation pour contester contre un projet, ben ça leur donne beaucoup de poids. Est-ce qu'il y a des... À faire ça, ça vient un peu contrer ces éléments-là aussi, parce qu'on vient préparer tout le monde dans une résolution de projet à long terme?
Ben totalement. En fait, ce que je crois fermement, puis ce que je constate par l'expérience sur le terrain, c'est que plus justement on va être capable d'ouvrir une discussion qui est saine, qui est constructive, qui implique un maximum de gens concernés, ben plus peut-être le phénomène du pas dans ma cour va être dilué, parce que effectivement, si on parle pas à personne, puis qu'on attend finalement que peut-être les personnes les plus directement touchées ou les plus sensibles à un changement s'élèvent, puis finalement il occupe toute la place, ben au lieu d'avoir une discussion rationnelle sur les pistes de solutions, ben le débat s'emballe plutôt du côté des impacts du projet, alors que bon, il y a tout le temps une façon de gérer ces impacts-là, de les atténuer ou de les penser autrement, mais pour ça il faut parler à plus de monde.
Puis tu sais, en même temps, c'est très délicat comme sujet. C'est très délicat pour les municipalités. Des fois, les projets, à quel moment qu'ils vont être présentés, les élections vont arriver, ils vont avoir une décision stratégique à prendre, la municipalité, pour approuver ou ne pas approuver un projet de par les élections. Puis, on se le cachera pas parce que ça existe pour vrai. Tu sais, comme c'est délicat aussi pour la municipalité de pas avoir une prise de décision hors de tout doute, ben il va faire en sorte que souvent la ville va pas s'opposer, mais donnera pas d'avis favorable jusqu'à temps qu'il n'y ait pas une uniformité dans la décision. Est-ce que vous le vivez ça aussi dans vos projets?
Ben oui, puis c'est vrai que c'est délicat parce que il y a une complexité là-dedans qui est politique, qui est technique et autre. Mais il reste que oui, les élus en général, puis les administrations municipales, ils ont une certaine neutralité à exercer, c'est-à-dire que oui, ils veulent du développement sur leur territoire, puis à ce titre-là, ça les place souvent dans une posture qui est favorable, ou du moins ils sont à l'écoute des projets de développement sur leur territoire, mais ils sont là aussi pour représenter l'intérêt collectif qui s'incarne à travers une multitude de points de vue chez les citoyens. Donc plus les deux parties on fait l'effort de cheminer vers une solution qui apparaît consensuelle, ben plus la municipalité va pouvoir exercer son rôle aussi de bonne façon, puis éviter de se peinturer dans le coin finalement.
Ah, définitivement, puis on l'a vécu nous sur différents projets ici sur la Rive-Sud, puis les gens avaient été aussi conseillés sur différentes façons, mais le projet comment qui était abordé, c'est on a un projet de remplacement, voici notre projet, ça a été contesté. Par la suite, t'sais, il y a eu les intervenants qui sont arrivés plus tard, mais t'sais, le mal était comme déjà fait parce qu'il y avait déjà le projet de remplacement qui était établi. Fait que de l'avoir travaillé différemment au départ pour avoir une meilleure intégration, pour s'assurer qu'on soit en mesure de comprendre les points de vue, ça va faire en sorte aussi que quand tu arrives à la municipalité puis que tu donnes ton projet, où ce que la ville peut constater tu as fait les efforts nécessaires pour faire le compromis pour en arriver à cette dernière situation-là où tu n'as pas le choix de faire ça, ben l'ouverture est plus grande. Puis, tu sais, pour un sujet personnel comme ça, puis je l'ai vécu, on a une piscine qu'on doit faire chez nous, on est sur un coin de rue, on est dérogatoire, on n'a pas le droit de mettre de piscine creusée avant telle distance. Comme on savait pas qu'il y aurait une pandémie, nous, on voulait pas de piscine, fait qu'on avait fait des grands patios, des grandes affaires. Mais là, on se retrouve avec un terrain restreint au niveau de l'implantation d'une piscine. Puis quand j'ai appelé la municipalité, quand j'ai parlé au conseiller, quand je me suis fait conseiller aussi pour ma demande de dérogation, ben il me dit, écoute, il dit, dans ta demande de dérogation, fais-le correctement, dans le sens que indique-nous que tu as fait tous les efforts nécessaires pour mettre une piscine ronde, une piscine ovale, t'as une piscine hors terre, une piscine semi-creusée, une piscine ci, puis là, de par ta configuration, puis tes demandes de permis, puis qu'est-ce que tu as fait, t'es pas arrivé à ton consensus de qu'est-ce que tu voulais initialement, que là, maintenant, la seule et unique raison, c'est d'être dérogatoire à la réglementation pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et si on est capable de constater ça, assurément qu'on devrait avoir un avis plus favorable oui. que de dire c'est ça ou c'est rien.
Prouver ta démarche.
Exact. Puis en faisant ça, ben Christy, notre démarche devait prendre 2 mois, puis crime, ça a pris 3 semaines, on a eu l'accord, bingo. Puis
tous les citoyens ont accepté de ta rue pour ta piscine.
Ben là, je suis allé en amont, Écoute, je suis allé en amont, j'ai fait signer mes voisins non, pour dire qu'ils étaient en accord avec mon projet de piscine.
Je comprends le parallèle, puis le parallèle est bon, là.
Ben oui, définitivement.
Tu montes ta démarche, puis comme tu nous dis encore une fois en pré-entrevue, ces gens-là, ces personnes-là qui vont prendre la place, qui vont élever leur voix, on peut pas juste les tasser ou les ignorer dans le fond. Là. C'est soit qu'on gère ça à la source puis qu'on essaie d'avoir justement une discussion, un consensus puis de cheminer avec eux. Si on pousse ça en dessous du tapis, ben là ça revient juste plus fort finalement.
Ça revient juste plus fort puis ça va prendre plus de temps à gérer puis ouais. ça va coûter plus cher puis ça va créer des conflits.
Des délais.
C'est ça. Il y a pas mal juste des conséquences négatives qui peuvent arriver à essayer de faire comme si les oppositions potentielles n'existaient pas, là, finalement.
Mais tu nous disais en même temps que c'est pas nécessairement parce qu'il y a 1, 2 ou 3 citoyens qui restent sur leur position, qui se campent sur leur position jusqu'à la fin qu'un projet
ne pourra pas aller,
aller de l'avant.
Ben non.
C'est le collectif qui l'emporte, là.
L'unanimité, on n'a jamais vu ça, là. Je veux dire, que tout le monde trouve qu'un projet est absolument parfait puis qu'il n'y en avait pas de meilleur, ça n'existe pas. On parle du mot consensus, c'est celui que tu as employé, Jean-François, là. On cherche plutôt le juste milieu, finalement, où est-ce que tout le monde va y trouver son compte.
C'est-tu intéressant, Kevin?
C'est absolument très intéressant.
Merci beaucoup, Caroline. On revient tout de suite après la pause.
96.9 FM.
Nous sommes de retour à la bulle immobilière. Il faut pas manquer Kevin Pépin avec Copy Management juste à la fin de notre émission. Un de nos partenaires qui commandite notre émission vient donner des capsules super intéressantes au niveau de l'investissement immobilier.
Je vais pas dire Kevin, parce que c'est un E.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est un vrai, pareil. C'est quand même un Kevin.
On est avec Caroline Tanguay, conseillère principale chez MU Conseil. On parle de l'acceptabilité sociale sur différents projets. On parlait que ça pouvait être pour des gros projets. On parlait aussi que ça peut être aussi sur des petits projets. Mais juste avant, vous ne faites pas juste de l'immobilier non plus.
Non, ben je l'ai dit là, dans le fond, on a une pratique qui est assez large. On est partout au Québec. Le siège social d'organisation est sur la Côte-Nord, fait que les premières armes là, puis l'expérience de base de l'organisation, c'est dans des projets miniers, industriels, portuaires. Je veux dire des dynamiques d'acceptabilité sociale qui sont loin d'être micro-quartiers. Là, fait qu'on a de l'expérience dans des très, très gros contexte, excessivement complexe comme ceux-là, tout comme on en a dans des projets de moindre envergure ou de plus grande envergure dans le domaine immobilier. Là. Okay.
Puis, un des sujets qu'on a parlé hors d'onde, c'était, tu sais, les histoires un peu crunchy, on veut toujours savoir si ça existe-tu. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de qu'est-ce qui arrive quand ça se passe mal?
Oui, puis tu sais, peut-être avant de répondre à qu'est-ce qui arrive quand ça se passe mal, peut-être vous donner quelques indices de ce qui devrait faire en sorte qu'un promoteur ait le goût de prévenir finalement un éventuel fiasco. Tu sais, souvent, ça va être quoi les déclencheurs d'une démarche d'acceptabilité sociale? C'est si tu as l'intention de développer un projet qui est plus dense. En général, la densité, c'est à gérer d'une façon plus sensible parce que, ça amène des changements des fois un peu plus visibles dans les quartiers.
Ça vient toucher les cordes sensibles à plusieurs personnes parce qu'on vient changer l'environnement global de qu'est-ce qui était initialement. Là.
Ah ouais. C'est ça, ça vient, puis on pourrait en parler dans une autre émission peut-être, ça vient avec bien des avantages aussi de construire en densité parce que ça amène des fois des milieux de vie qui sont plus riches, de la mixité au niveau des
commun.
Services et tout ça. Fait que tu sais, ça c'est un autre sujet, il y a des avantages à la densité, mais il en demeure pour moi que d'entrée de jeu, c'est souvent un déclencheur d'une sensibilité du voisinage au projet qui est proposé. Un autre élément, évidemment, qui devrait mettre la puce à l'oreille d'un promoteur puis dire « Ah, je vais m'y prendre d'une façon différente », c'est s'il y a un changement de zonage à faire. Inévitablement, on a évoqué tantôt la question des référendums là, décisionnels en urbanisme. Si le plan d'urbanisme doit être changé pour que le projet soit possible, ben là, il y a un rapport aussi de force là, qui s'établit avec les citoyens qui devrait finalement inciter tout le monde à travailler en amont. Si on change les usages, ça aussi c'est un indice qui devrait faire en sorte qu'on s'intéresse un peu d'un peu plus près là, à parler au monde. Puis les impacts sur le milieu de vie de façon générale. Tu sais, quand il y a des éléments sensibles dans un quartier, ça devrait sonner une cloche là, pour y penser autrement, puis s'engager vraiment de façon plus proactive dans une démarche d'acceptabilité sociale.
Puis peut-être aussi avec une démarche de démolition avec projet de remplacement. Là, souvent, cette démarche-là va amener aussi...
Le patrimonial aussi,
un secteur, la vue, etc. Ouais. Fait qu'il y a quand même plusieurs facteurs de risque.
Puis si on les écoute pas ou on les sent pas venir, qu'est-ce qui peut arriver? T'sais, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se rend dans un cul-de-sac? As-tu des exemples là?
Ben malheureusement, oui, j'en ai quelques-uns. Ouais. Puis
on peut-tu rattraper ça? Ça se réchappe-tu? Bon, ou...
ça se réchappe, OK, mais je le dis puis je le répéterai jamais assez, le plus en amont possible qu'on peut travailler, ouais. Puis le moins creux on s'enfonce dans une crise, le plus facile ça va être de trouver les fameux terrains d'entente qu'on cherche. Fait que souvent, il y a des cas qui sont durs à rattraper, c'est quand, moi j'appelle ça un passif social, là, quand le voisinage a été écorché par un autre projet qui a créé des impacts, qui ont tendance à pas avoir voulu, puis qui a passé pareil. Ça, en général, ça prédispose mal au dialogue, parce que des fois, ça fait que les gens, en commençant, sont un petit peu sur la défensive. Mais pour le promoteur, c'est quoi les impacts de pas s'en occuper? C'est quoi les conséquences ça se mesure à quoi un fiasco, tu sais, finalement, d'inacceptabilité sociale? C'est beaucoup de perte de temps. Tu sais, c'est des démarches, finalement, où est-ce que d'un projet qu'on pensait pouvoir implanter en X mois, ben on vient de multiplier le calendrier par 3, par 4, parce qu'il faut gérer une crise. Ça, c'est une première incidence. Il y a l'argent que ça coûte. Tout à l'heure, on parlait sous l'angle des gains, tu sais, puis de ce qu'on épargne, finalement, quand on s'y prend au bon moment, mais dans une crise d'acceptabilité sociale, il y a des coûts épouvantables, tu sais, que ça peut venir qu'à générer. Puis oui, pour les professionnels, mais dans d'autres cas, ça veut dire en gestion de réputation, en relations publiques, beaucoup de travail à faire pour rattraper le lien de confiance qui était perdu. Puis ultimement, ben c'est la polarisation qui fait que l'atmosphère devient tellement tendue que le promoteur n'est pas toujours propriétaire de son terrain, mais parfois c'est le cas. Il va être pogné un jour ou l'autre pour en faire quelque chose ou le vendre à quelqu'un. Puis là, ça fait que c'est comme accumulé
émotionnellement, une certaine frustration pour tout le monde aussi, là, autant les citoyens que le promoteur. Là. Fait que, tu sais, effectivement, que travailler en amont va éviter tout ça. Puis, tu sais, je pense que le constat le plus grave, c'est que ton projet n'arrivera pas à terme. Ouais, tu vas avoir perdu ton temps puis ton argent. Puis ça finit là, tu sais. Ton projet n'arrivera pas à point.
C'est là que je dis, tu arrives dans un cul-de-sac, dans le fond. C'est qu'en plus d'avoir éternisé les délais, peut-être que tu n'arriveras même pas à tes fins, finalement. Là.
Exact.
T'es doublement perdant. Là.
Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des histoires à succès.
Ben oui, puis il y en a beaucoup. Puis, je veux dire, c'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça qu'on se rencontre, parce que force est de constater que...
On s'est rencontrés sur un succès aussi, là, sur Co-Cité, ici, à Saint-Nicolas. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, au niveau de la présentation du projet, parce que on s'est fait présenter le projet, non pas par des courtiers immobiliers, mais justement par des gens de Mu Conseil qui nous expliquaient un peu l'environnement, qu'est-ce qui va s'en venir, etc. Fait que je trouvais l'approche vraiment, vraiment le fun aussi, là.
Puis bon, c'est ça, sans nécessairement aller à fond dans celle-là, si je peux illustrer ça ressemble à quoi un succès, ben en général, oui, c'est un promoteur qui s'y prend d'avance, qui est au courant du milieu dans lequel il s'implante, qui est sensible pour vrai, puis qui a le goût de connaître le monde qui vont être ses voisins. Ça, c'est généralement des ingrédients de base. Mais tu sais, tantôt, Kevin, tu demandais, ben y a-tu des fiascos, y a-tu des façons qu'on peut rattraper? Il arrive parfois qu'on a l'impression qu'on va, tu sais, qu'on va l'échapper, comme on dit, là, que le projet est sur une bien mauvaise pente, puis que finalement, on fonce dans un mur. Mais en réalité, il arrive des cas aussi où est-ce que des projets comme ceux-là, on est capable de les rattraper avec la bonne dose d'humilité qu'il faut de la part du promoteur. Puis, tu sais, je peux peut-être vous raconter une petite histoire là, qui se passe ici dans la grande région de Québec, disons ça comme ça. Un projet qui impliquait une modification au règlement de zonage, autant pour le nombre d'étages qui avait l'intention d'être construit que pour l'usage. On est sur un terrain qui était zoné commercial, puis où est-ce que le promoteur, ce qu'il avait comme intention, c'est de mettre en place une résidence pour aînés. Fait que, puis c'est un promoteur d'expérience, il connaît son métier, il a fait ses études de marché, il est à son affaire, il est bien structuré, il s'est entouré avec...
D'une équipe aussi.
Une équipe, il y a un architecte architecte qui est ultra compétent, qui, je veux dire, qui est très sensible à l'intégration harmonieuse d'un bâtiment dans son environnement, autant physique que humain et tout ça. Fait que tous les ingrédients ont l'air d'être là, mais le premier projet qu'il présente, il passe pas, mais il passe pas pantoute. Pourtant, le promoteur, l'architecte, eux autres, ils étaient convaincus. Ils avaient créé comme des espèces de petites cours intérieures pour, ils avaient en tête, ils gardaient l'intimité autant pour leurs futurs résidents que pour les voisins. Il y avait un certain nombre de points d'appui dans le concept qui étaient vraiment de bonne intention. Mais première présentation aux gens du quartier, finalement, ça passe pas. Il y avait tout faux. Il y avait tout faux. C'est pas compliqué. À part peut-être pour l'intention de bâtir une résidence pour aînés, la configuration de l'immeuble qui était proposée, ça fonctionnait pas. Puis pourquoi? Bien, c'est parce que l'immeuble venait créer une obstruction visuelle pour des gens autour qui étaient habitués d'avoir un dégagement, d'avoir une vue finalement. Ça fait que bon, il y avait le choix là, de foncer dans le mur ou de se rendre jusqu'au bout de l'affaire avec un référendum qui vraisemblablement aurait donné un résultat tout noir, à savoir replie tes affaires puis repars chez vous. Fait que juste avant d'y arriver, ce qu'il a fait, puis j'ai parlé d'humilité tantôt, c'est qu'il est retourné à la planche à dessin. Il s'est dit, bon, ben maintenant, je comprends que mon intention est pas complètement farfelue. Il y a un marché pour ce que je veux proposer, mais de toute évidence, la forme que ça prend fait pas l'affaire. Fait que là, c'est une démarche où est-ce que... un par un, là, cas par cas, mon conseil est engagé pour aller à la rencontre des citoyens qui étaient touchés par le projet, puis les écouter sur la vision qu'il y avait, parce que le citoyen qui est face à un changement qui va avoir un impact pour lui, son premier réflexe, ça va être de pas prendre de chance puis de s'opposer. Puis cette étape-là, bon, elle exige de l'énergie, mais elle est relativement facile. Là où ça devient engageant puis que ça devient intéressant, c'est quand on dit, ben d'accord, vous êtes pas d'accord, ça fonctionne pas, puis vous avez des bonnes raisons de penser ça, mais maintenant, quelles seraient les pistes de solution? Ça serait quoi un projet idéal pour vous? Puis là, il y a tout un doigté, je pense que c'est le terme que tu as employé, ouais. Kevin, quand on en parlait plus tôt. Il y a tout un doigté. Faut faire attention de pas créer des attentes démesurées. Donc, d'aller s'asseoir dans la cuisine de tout un chacun, d'aller sur le balcon, de regarder ça a l'air de quoi la vue autour. Faut pas que ça laisse l'impression nécessairement qu'il y a une solution qui va être parfaite pour tout le monde.
Il va avoir un trou dans le bâtiment pour ta vue.
Non.
On fait le bunker, on fait tout souterrain.
C'est ça, c'est pas ça. Fait que faut bien gérer les attentes, puis faut engager les gens dans une démarche vraiment d'intelligence collective, ouais, où on cherche des solutions ensemble. Puis à partir de là, ben les gens deviennent très, très créatifs, puis très, très généreux, puis très...
plus ouverts au projet aussi.
Plus ouverts au projet. Puis dans ce cas-là, précisément, ça se dirigeait vers un fiasco, si c'était pas de repenser le projet autrement. Mais une fois qu'on a mis ensemble tous les morceaux, puis ça, c'est pas mon métier à moi, là, c'est le génie de l'architecte, finalement, qui a fini par créer ça, mais c'est de tout rassembler, finalement, la multitude
des enjeux des gens,
puis de les combiner dans une deuxième proposition qui n'a pas fait et ne fera pas l'unanimité. C'est-à-dire qu'il est resté un certain nombre de voisins qui allaient inévitablement soit perdre la vue ou avoir une certaine obstruction visuelle. Par contre, ces gens-là, ils ont été impliqués, ils ont été consultés, ils ont été entendus, ils ont compris les intentions, ils ont compris les contraintes, puis ils ont l'impression, pour la plupart d'entre eux, d'avoir été bien compris eux aussi. Puis, en somme, ce qu'on a, c'est un projet que, même s'il me cause du tort à moi, ben je me dis, il est bon, puis c'est le meilleur qui était possible. Fait que comme...
Parce qu'on est capable d'amener le citoyen à réfléchir un peu plus loin, puis de dire, écoute, il y a eu plusieurs étapes, j'ai été... pris en considération aussi dans le nouveau projet ou dans le réaménagement du projet. Puis malgré tout ça, avec les concessions que les gens étaient prêts à faire, bien, c'était la meilleure solution pour tous et chacun. Fait que c'est un peu ça qui arrive dans ce projet-là, mais les gens...
Faut que tu fasses tomber la première barrière, comme tu dis. C'est-à-dire, faut que tu te rendes, faut que tu les consultes, faut que l'émotif peut-être se calme un peu, ou en tout cas, la peur ou les appréhensions, faut que tu les calmes. Puis là, après ça, ils sont capables d'avoir la réflexion que tu viens de dire, hein, peut-être un peu plus... posé ou rationnel ou...
Puis de sortir l'émotionnel moins, de ça, là.
C'est ça.
Ben, tu sais, de dire, écoute, j'ai été consulté, ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient. Malheureusement, de par la configuration puis ma localisation, ils peuvent pas plus.
Ouais.
Mais au moins, j'ai été entendu sur qu'est-ce que je voulais amener. Puis, tu sais, même si vous avez pas l'unanimité, les gens vont être quand même plus ouverts à donner leur appui parce qu'ils ont été entendus. Puis le compromis a été fait peut-être pas pour lui, mais récent pour les autres qui étaient à côté. Le compromis a été fait, là.
Exact. Puis plus que ça, au-delà des conclusions matérielles de la chose, là, c'est-à-dire un design différent pour la bâtisse, bien, il y a quelque chose aussi qui c'est intangible, sauf que la cohésion sociale qu'on est capable de garder quand on s'installe dans un voisinage, puis ça va être un gros projet, ça va être un petit projet. Il y a tout le temps une dimension de voisinage. Puis dans ce cas-là, précisément, le promoteur avait bien fait son étude de marché. Il voyait que c'était un quartier vieillissant. Puis à la fin de la démarche, ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait au moins autant de gens qui étaient sur sa liste d'attente venant du quartier qui voulaient aller s'installer à l'intérieur de l'immeuble qui allait être bâti parce que leurs besoins en matière d'habitation évoluaient. Puis que,
il était rendu là.
Ça fait qu'ils ne voulaient pas à tout prix qu'un projet se fasse, puis surtout pas au prix de leur vue ou de la qualité de vie qu'ils estimaient avoir, mais ils étaient non seulement ouverts à ce qui se passe quelque chose, ils étaient littéralement intéressés, puis ils voyaient un avantage à ce que ce projet-là s'installe dans leur quartier parce que ça répondait à un besoin, puis non seulement ça répondait à un besoin, puis ça a répondu de bonne façon, ou en tout cas de façon la moins pire possible à ce besoin-là.
Fait que le promoteur a gagné des clients en plus d'être capable de faire accepter
exact,
son projet.
Exact, puis ça, je fais jamais cette promesse-là parce que ça tombe littéralement hors de mon champ de compétences, sauf que c'est pas rare que quand dans le projet, il y a une agence de marketing qui est impliquée, qu'ils viennent nous demander finalement au sein de l'équipe, ça ressemble à quoi, à qui on parle, qu'est-ce qui est ressorti, comment le projet a évolué entre première version, deuxième version. Souvent, ça va venir nourrir carrément l'identité distinctive du projet, puis ça permet même aux équipes de marketing de le positionner d'une façon qui est originale puis vivante. Puis là, je m'arrête là-dessus parce que c'est pas mon métier puis je m'y connais pas, mais je le vois à quel point ça sert de point d'appui aussi à d'autres professionnels qui rendent le projet possible.
D'où le travail d'équipe que tu parles depuis le début.
Tout à fait.
Tu dirais-tu que fondamentalement, autant les fiascos que les réussites, mais ce que ça nous dit, c'est que les promoteurs souvent ne veulent pas se poser cette question-là ou n'osent pas aller poser la question aux citoyens. C'est comme si on part de la réponse finalement.
Peut-être, mais ils ne devraient pas.
Oui, c'est ça. Puis d'un autre côté, tu sais, est-ce que...
Pourquoi pas le faire? T'sais, là, ça semble très logique, mais c'est vrai. Pareil, l'idée, exact. C'est qu'on ne veut pas poser la question parce qu'on a peur de la réponse.
Puis tu sais, souvent, c'est à cause que tu veux pas nécessairement avoir cette réponse-là. Tu sais, tu veux convaincre que ton projet va être le meilleur, d'être à l'externe un peu avec MuConseil, vient faire en sorte que tu viens ajouter un intervenant en justement chacune des parties. Puis je trouve que la neutralité dans tout ça va venir à amener une meilleure réflexion, autant pour les parties qui s'opposent que le proposant. Ouais. Là. Fait que c'est quand même super intéressant. Une des choses qui est vraiment importante à notre émission, c'est qu'on dit toujours de se référer à des professionnels, de faire affaire avec des spécialistes. Définitivement, MuConseil est vraiment là pour vous aider dans l'acceptabilité sociale des projets. Je l'ai manqué, maudit. mais j'aimerais ça que tu puisses nous parler juste avant qu'on finisse des différents types de services que MuConseil peut offrir autant aux citoyens, aux comités de citoyens que les promoteurs entrepreneurs.
Ben là, depuis le début de la discussion, on a beaucoup été à illustrer des cas clés en main, là, où est-ce que justement le promoteur.
C'est pas un combat, là.
Puis j'appelle pas ça un combat, évidemment, mais où est-ce que l'équipe de MuConseil est déployée sur le terrain? On parle à une multitude de gens, puis bon, c'est des démarches de plus grande envergure qui collent à des projets de cette envergure-là aussi. Sauf que, je veux dire, il arrive bien des cas qu'on règle avec une conversation téléphonique, tu sais, où est-ce que le promoteur a besoin d'être enligné, a besoin d'être conseillé, de se faire lever quelques drapeaux. Puis ça peut être très, très simple, en particulier si le promoteur a dans son équipe ou lui-même des gens qui sont capables d'entrer en relation avec les gens, qui ont de l'écoute, qui ont l'attitude adéquate qu'il faut finalement pour aller chercher eux-mêmes le pouls sur le terrain. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être, comme on le disait tantôt, clé en main avec une démarche très structurée, avec des mécanismes là, d'information, de consultation, des ateliers de co-développement, puis après ça, évidemment, toute la rétroaction. Puis il y a tout ce qui est vrai entre les deux aussi, c'est-à-dire une démarche qu'on réfléchit d'entrée de jeu, on conseille le promoteur étape par étape, puis il y a une affaire qui avait pas vu, on se repositionne, on aide les choses, fait que toutes les réponses sont bonnes. La seule vraie condition de succès de départ, c'est la bonne intention derrière ça, le bon état d'esprit, puis de s'y prendre d'avance. T'sais, en gros, à partir de là, on peut généralement travailler de bien des façons créatives et intelligentes pour arriver au résultat voulu.
Vraiment cool, Caroline Tanguay. De quelle façon qu'on peut rentrer en communication avec toi?
Ben, dans le fond, nous...
sur le site Internet?
C'est super facile, le site Internet www.mu-conseil.com. C'est la façon la plus simple, évidemment, d'entrer en contact avec nous.
Super. Écoutez, restez avec nous tout de suite après la pause. C'est Copy Management avec Kevin Pépin. Présentement, 11h48. Merci d'avoir été à l'écoute de La Bulle Immobilière.
C'est JMD.
Bienvenue aux chroniques de Copy Management avec Kevin Pépin. Salut, Kevin!
Salut, Jeff! Salut, Kevin! Ça va bien?
Ça va super bien. On aime ça, les chroniques. On aime ça, apprendre plein de trucs par rapport à l'immobilier. Puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça. Puis, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente. Mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, oh, mais tu sais, c'est pas grave, le vendeur va me signer un papier on the side, puis il va me faire une balance, puis je vais le rembourser plus tard. Y a-tu des bonnes façons de procéder, puis des mauvaises façons de procéder?
Ben, effectivement, il y a différentes manières de structurer la garantie d'une balance de vente. C'est certain que si la balance de vente, par exemple, elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente. Et le point est simple, c'est que le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. Je veux dire, c'est elle qui met directement la dette senior sur vos actifs.
C'est lui qui fait la plus grosse balance.
C'est lui qui fait le plus gros prêt. Et à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher à son directeur de compte, c'est une faute de bonne politique, à mon sens.
Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance?
Parce que la RCD va exploser.
Ben oui, clairement. L'institution financière n'est pas là pour prendre du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Donc, c'est certain que la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment leur risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente, est-ce qu'il a la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, ben c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en mise de fonds de ses propres capitaux la partie qui était censée être financée par le vendeur.
Puis justement, si ça devient souvent une barrière, le RCD, comment on peut l'aborder justement? Comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins contrôler la façon de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties, là?
C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. Première des choses, il va analyser principalement le ratio de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qui va vraiment qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que, hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation de l'actif, c'est lui qui va être payé en premier. Mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la manière que moi je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque immobilière. Donc, c'est de donner en garantie les actions de la société, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100% de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démontre au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète l'immeuble avec toute une mise de fonds. Et par la suite, ben le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire. Le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Encore une fois, il y a plein de manières de structurer. Il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère évidemment d'en parler à son directeur de compte, de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte. Tu sais, de ton côté, que tu te sens pas trahi, tu te sens pas qu'on t'a caché de l'information et que tu le juges pas comme étant un risque supplémentaire à ton prêt.
Parce que de la façon que tu viens de l'amener là, ça a pas d'impact sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là.
Ben, c'est parce que, en réalité, ça devient comme un prêt privé à la société.
À la compagnie, c'est exactement ça. C'est pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que, exactement, au jour du notaire, t'as effectivement la mise de fonds complète, par exemple 25% si t'étais conventionnel, là.
Exactement. C'est sûr que, t'sais, y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Mais en effet, c'est pas dans, on démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, ben, on décide qu'une partie de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée. Mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça. comment est-ce qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt. Je respecte tes ratios en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités qu'il a eu de la vente.
Fait que là, tu es en train de dire que dans la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller financier ou t'sais, votre banquier ou peu importe. Puis par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est cachez-le pas, parce qu'on veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu veux pas non plus être pénalisé par rapport à ça. Puis tu veux pas te faire rappeler ton prêt à cause.
Non, parce que c'est considéré comme une fraude hypothécaire. Si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Je sais que il peut y avoir une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner, puis de faire un genre de prêt caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le risque. Si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, je veux dire, ça fait pas de vous d'une mauvaise personne, c'est juste d'être conscient du risque que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et nous, dans toute l'histoire du portefeuille, de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui conter des histoires, il n'y a pas toujours le doute de dire « Ah, il est-tu en train de me mentir? Il est-tu en train... Il y a-tu quelque chose qu'il me dit pas? » Puis en réalité, là, tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. Donc, développer vraiment une bonne relation avec ce trait. Non, c'est pas un bon feeling.
Qu'est-ce que tu veux avoir avec ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire avec toi, puis trouver des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagnant dans une situation comme ça.
Votre directeur de compte, il est là pour aller battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, en effet, si vous développez une super bonne relation avec... et qui, il ou elle, a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record, puis que, justement, vous faites bien les choses, ben ça va vous favoriser, parce que, veux, veux pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'interne au niveau des banques, là.
Puis, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, mettons, on se ramène à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu, en 2020, de monter une balance de prix de vente? Parce que dans l'exemple que tu donnais tantôt de venir s'hypothéquer sur la valeur immobilière de la société. Si tu t'es créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement, c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Fait qu'est-ce que, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder l'aspect de la dette senior dessus. Donc, si vous êtes évidemment dans une dette SCHL, ils vont vraiment pas des morts du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, ben là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mais mettons qu'on oublie un prêt assuré par la CHL, qu'on reste juste dans un prêt conventionnel, ben toute la notion de force de l'emprunteur, va la capacité de réinjection de l'emprunteur, toute cette notion-là financière de la société et de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et évidemment, si vous faites des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires, ben, si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, ben, ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même aller chercher des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, si vous êtes capable de démontrer que ben si on n'arrive pas justement à... Si l'immeuble n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, ben nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la valeur nette en plus de tout, parce que notre valeur nette excède X montant le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un ratio de couverture de la dette déficitaire. Et le crédit pourrait... Une bonne caution. Le crédit pourrait évaluer, ben écoute, oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque, clairement.
Donc, ça se fait.
Ben oui, ça peut se faire. Et moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Puis, je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est correct pour eux.
Mais si tu magasines une nouvelle adresse à chaque financement aussi, ça peut être... périlleux, là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où tu es capable avec ton partenaire financier de sillonner au travers des possibilités si à chaque fois tu dois changer parce que tu en as passé une en
Québécois. Exactement ça. Là. Oui, et je vous dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre banquier que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non, mais il t'arrive
plus... Ça commence par un non.
Ouais, ça commence par un non, mais c'est arrivé plus souvent de oui. Puis à un moment donné, la relation qu'elle se forge, ton directeur de compte qui a vraiment confiance qu'il est en train de bâtir une relation de transparence puis qu'il a toutes les données, ben il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour ton dossier. Puis c'est la même chose pour le courtier hypothécaire. Là. Que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc, d'avoir cette relation-là de transparence, je pense que c'est primordial en affaires, que ce soit avec votre... C'est pas parce que c'est une institution financière. Oui, vous dealez avec l'institution financière, mais ultimement, vous dealez avec la personne qui est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence puis de dire les vraies choses. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
Puis au niveau fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être interprétée de cette façon-là? T'as-tu des guidelines que ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, etc., etc.?
Ben, c'est sûr que, de exemple, une balance de vente...
qui pas déclaré.
Ben, non déclaré à l'institution financière, puis qu'il y a comme un arrangement, tu sais, exemple...
En contre-lettre.
Ouais, en contre-lettre, t'as un notaire qui fait l'acte hypothécaire, t'as un notaire qui fait l'acte de vente, puis tu sais...
Tu devrais te croire aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière, finalement, les autres reçoivent une liste quelques jours après.
Oui, ils ont un avis
d'adresse.
C'est ça, il y a un avis d'adresse directement au registre foncier, fait que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un flasher. Mais là, on parlerait plus de balance de vente qui est sous écrou, là, donc qui est non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça, puis il va se dire, ben écoute, on a une liste de... j'ai une liste de critères qui fait que si, exemple, l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben là, je vais enregistrer la balance de vente, puis le vendeur va être protégé. Mais faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben, je veux dire, c'est le moment qu'il y a l'inscription que ça s'enregistre au registre foncier, là. Donc, la personne, exemple, on deal ensemble une balance de vente sous écrou.
Oui.
Et deux ans plus tard, j'ai toujours un seul premier rang qui est l'institution financière. Deux ans plus tard, je respecte pas les critères, puis je suis en problématique financière. Puis là, j'ai un GF. J'ai dit, GF, on fait un prêt, je te donne en deuxième rang mon immeuble. Mais là, GF, s'il prend un deuxième rang, toi, là, ça fait deux ans que tu m'as fait le prêt, qu'on s'est entendu. Mais si t'enregistres, tu vas tomber en troisième rang. Tu tomberas pas en deuxième rang parce que lui, il l'enregistre avant toi. Donc, cette notion-là de premier arrivé, premier servi.
Jusqu'au 24 novembre, les routes Frites Fusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.